À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, qu'est-ce qu'un vrai problème dans le cadre de notre réflexion commune sur le débat public ? À présent, il y a toujours eu un débat sur ce qui devrait faire débat, sur les vrais et les faux problèmes, et il y a beaucoup de prétendants à ce titre. Mais il n'y a jamais eu autant d'écart justement entre ces prétendants. Qui a raison ? Est-ce que c'est les scientifiques, les experts, les politiques, les citoyens ? Et tous ceux qui prétendent avoir les vrais problèmes, est-ce que des faux problèmes masquent tous les autres ? Même la pandémie ne semble pas avoir imposé des problèmes communs de manière commune. Nous en parlons ce soir avec Dominique Méda, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, et Lou Wolf, professeur associé à l'École normale supérieure et administrateur de l'INSEE. À présent, donc, comment définir les vrais problèmes ? Comment faire pour qu'ils s'imposent face aux faux ? Donc, nous en parlons ce soir avec vous deux, Dominique Méda, Lou Wolf. Merci beaucoup d'être là, d'abord, Dominique Méda.
Bonjour, Frédéric Worms.
Merci.
Je suis très, très heureuse d'être là.
Moi aussi, très heureux que vous ayez accepté, Lou Wolf aussi. Merci beaucoup d'être
Bonjour.
Là.
Bonjour, très heureux d'être là.
Je vous ai présenté un peu rapidement, mais pour moi, le point commun que vous partagez, Dominique Méda et Lou Wolf, et qui peut nous introduire d'emblée au cœur de la question, c'est que vous êtes au fond des médiateurs, au fond. C'est-à-dire que dans ces différents prétendants à la position des problèmes qui s'affrontent aujourd'hui, et dont je parlais en introduction, et vous me direz si vous êtes d'accord, il y a plusieurs positions qui sont toutes importantes. Le débat public, la science... la science dans ses diverses disciplines d'ailleurs, l'enseignement, les interventions diverses et variées. Et j'ai l'impression que vous en pratiquez plus d'une, je dirais, plus d'une intervention, et que c'est peut-être très important pour échapper à cette concurrence des problèmes. Dominique Méda, vous êtes à la fois donc professeur de sociologie, vous construisez sociologiquement les problèmes, en même temps vous intervenez dans beaucoup de débats publics, dans des journaux de toutes sortes, j'allais dire, dans des plateaux comme celui-ci, mais aussi dans des plateaux plus directement engagés, jusque dans le grand débat des intellectuels, y compris au Palais de l'Élysée, quand le débat a fait débat.
Justement. Nous étions ensemble, souvenez-vous.
J'assume que nous étions voisins dans ce cadre, mais ça peut être un cadre intéressant à discuter aussi. Donc vous êtes une habituée de cette circulation qui devient difficile au fond, hein, qui devient compliquée. Et vous-même, Lou Wolf, vous êtes à la fois administrateur de l'INSEE, vous produisez des données qui sont censées nous éclairer sur les vrais problèmes, les citoyens, comment est-ce qu'ils ressentent et comment est-ce qu'on peut objectiver les vrais problèmes. Et d'un autre côté, vous enseignez aussi justement cette construction des problèmes, vous réfléchissez sur cet usage démocratique des chiffres. Vous avez écrit un article éclairant dans le 1 récemment, qui s'appelle « La démocratie des chiffres ». Je voulais vous demander d'abord à l'un et à l'autre comment vous vivez cette circulation entre des régimes de problèmes, des registres, et est-ce que vous y voyez effectivement une manière de dépasser la concurrence des problèmes, cette manière de cette lutte entre des discours qui revendiquent tous le fait d'avoir les vrais problèmes contre les autres. Dominique Méda, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec justement cette position du problème ?
Je trouve ça très intéressant. Alors moi, j'ai une double vie. J'ai commencé ma vie dans l'administration. Et donc, dans l'administration...
Dès la naissance.
Et donc, dans l'administration, on était en effet confronté à des problèmes qui étaient là. Et il y avait une urgence, il y avait le cabinet du ministre qui demandait de faire des traitements, etc. Et puis, en passant de l'autre côté, enfin, en passant presque... Alors, je dirais pas dans les coulisses, mais peut-être d'une certaine manière, en ayant ce nouveau métier de professeur et surtout de chercheur, ce qu'on découvre et ce qu'on décrypte, ce qu'on décortique, c'est le fait que les problèmes publics se construisent. Mmh. C'est un des grands enseignements de la sociologie.
Ils ne tombent pas du ciel, justement.
C'est un des grands enseignements de la sociologie et de la science politique, c'est qu'on construit les problèmes publics et donc on explique à nos étudiants qu'il faut d'abord une mobilisation des porteurs de cause, il faut mettre le problème à l'agenda pour qu'enfin on s'en empare. Et évidemment, un des sujets très, très intéressants et qui est idéal typique de ce point de vue, c'est l'amiante. J'ai un collègue à Dauphine, Emmanuel Henry, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'amiante. Et c'est très, très, très passionnant parce qu'il montre comment...
Ça nous paraît évident aujourd'hui, la
mais bien sûr,
mais,
bien sûr.
Mais en fait, il y a une histoire de ce problème.
Mais tout à fait. On a un demi-siècle, on découvre en 45 que l'amiante est très dangereuse, il y a des inspecteurs du travail qui le dénoncent très vite, donc finalement, ça se sait assez tôt, il ne se passe rien.
Ah oui, j'aurais jamais cru 45.
Jusqu'en 1995. C'est absolument sidérant. Parce qu'on considère que c'est un risque professionnel qui concerne quelques ouvriers. Et puis, soudainement, on va découvrir que non, c'est un scandale sanitaire majeur avec déjà 35 000 personnes qui sont décédées. Et l'INSERM avait annoncé la possibilité de 100 000 décès. Donc, quelque chose d'absolument énorme. Et donc, l'amiante sera interdite en 1997. Donc là, on a toute cette histoire absolument, absolument passionnante.
Et là, ce que vous êtes en train de dire, Dominique Méda, c'est donc qu'il y avait un problème objectif, finalement, aux yeux des experts, mais avant qu'il devienne un problème politique, traité par le ministère dont vous parliez, à l'agenda politique, il a fallu la médiation des acteurs sociaux, finalement.
Alors, la médiation des acteurs sociaux, donc inspecteurs du travail, mobilisation des victimes, des avocats des victimes, et puis intervention de la science et de la statistique. C'est-à-dire qu'on va avoir des luttes pendant des dizaines d'années sur la taille des fibres. Ah, mais c'est pas grave si la taille des fibres est comme ceci. C'est pas grave, c'est embêtant quand elle est comme cela. Et donc, on va se battre. C'est une bonne partie de la sociologie aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle les effets de seuil, les cocktails. C'est aussi quand on traite de la question des pesticides et d'une manière générale de la manière dont s'instaure une lutte entre les scientifiques et les lobbies. On a énormément de discussions autour de ces sujets et donc autour de la construction des statistiques.
Et donc pour prouver que c'est un vrai problème, et je vois que vous vous tournez vers Lou Wolf, effectivement je fais de même, pour prouver que c'est un vrai problème, il y a besoin de différents registres, justement, et pour dans le registre scientifique, on a l'impression que l'objectivité absolue, mais on voit bien qu'elle fait partie d'un discours, hein, c'est ce que Dominique Méda vient de dire, l'objectivité ultime dans les questions sociales, c'est le chiffre, cette objectivation qui permet de dire oui, il y a un problème. Est-ce que Lou Wolf, vous pensez que cette objectivité est en effet un argument ultime, une sorte, ou bien est-ce que effectivement elle ne suffit jamais et pour qu'un problème s'impose, soit discuté et traité, c'est d'abord le discours sur la place publique qui importe, Lou Wolf.
En fait, c'est souvent, c'est presque toujours, j'ai l'impression, la conjonction des deux. Et dans le cas de l'amiante, un gros enjeu de discussion et de débat et d'énonciation du problème a été aussi le nombre de victimes de l'amiante. Et c'est ça...
Qu'il a fallu documenter
et qu'il y a une construction statistique qu'il a fallu construire, qu'il a fallu argumenter, autour de laquelle il a fallu discuter pour énoncer les critères qui permettent d'identifier que, oui, effectivement, telle personne a tel endroit, à tel moment, a été victime de l'amiante plutôt que d'un autre facteur, parce qu'on sait bien que voilà, ces décomptes sont toujours complexes.
Quand vous dites construire, c'est pas forcément une construction arbitraire, mais c'est quand même, disons, établir une causalité qui peut être discutée, qui ne va pas forcément de soi. Il y a des morts, il y a de l'amiante, il faut qu'on montre qu'il y a un lien entre les deux.
Absolument, Frédéric Worms. Alors, c'est vraiment la dimension qui m'a passionné dans ce travail statistique, dans cette science administrative et académique. C'est cette espèce d'ambivalence qui existe encore beaucoup dans notre société autour des statistiques qui, dans le langage profane, enfin dans l'acception profane, une bonne statistique est une statistique extérieure au problème. Elle est valable parce que elle a été construite de façon totalement indépendante, de façon pure.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème, ne l'a pas précédé. On l'a obtenu, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais elle est là.
Voilà.
Et on construit le problème avec.
Et là, on a l'impression qu'on a bien construit le problème. Or, les travaux d'Alain Desrosières, que j'ai eu la chance de fréquenter, moi, très jeune, en arrivant dans cet univers et qui m'a beaucoup influencé et formé.
Et donc,
un statisticien de l'INSEE et surtout un éminent intellectuel, chercheur sur ces questions de la quantification. A été justement démontré que cette extériorité est fausse. Ça n'intervient jamais comme ça. Les chiffrages, les analyses qu'on utilise dans l'énonciation du problème sont souvent consubstantielles au débat social qui construit le problème. Et c'est pas sale, c'est pas un problème, c'est la nature.
Ça ne disqualifie pas les données,
au contraire,
les chiffres.
Les chiffres et les données.
On va discuter. Comment est-ce qu'on prouve que c'est vrai, voilà, ce problème-là?
Exactement. Et les chiffres, les données sont d'autant plus intéressantes, d'autant plus pertinentes qu'elles ont été construites en lien avec l'énonciation du problème. Et je pense que dans les risques que vous pointiez sur la concurrence de l'énonciation des problèmes, cette fiction d'une forme d'indépendance de la construction des chiffres et de la construction des problèmes est une grande difficulté.
Alors ça intervient aujourd'hui, on va en parler évidemment dans le contexte qu'on vit, dans la pandémie. Dominique Méda, vous dites d'ailleurs dans votre article de l'économie politique qui vient de paraître, une nouvelle façon de penser le monde, vous dites que vous espérez que la crise va remettre à jour des vrais problèmes, mais qu'il y a aussi une vague de faux problèmes, même dans la crise. Là, dans la crise, Lou Wolf, finalement, il y a eu presque une émergence du chiffre des statistiques dans le débat public, ne serait-ce que parce que l'épidémie, c'est des grands nombres. Et ça a eu un effet d'objectivation, mais ça a aussi bloqué le débat. Qu'est-ce que vous faites de ces statistiques aussi tous les jours, tous ces pourcentages?
Oui, ce qui est, je le suis de près évidemment par des formations professionnelles et par intérêt. mais ce qui est très frappant, c'est la place très centrale que ces chiffres ont pris dans le récit collectif du problème. Puisque voilà, on le met en scène toutes les semaines, on annonce les chiffres, l'évolution de la mortalité, etc. Donc c'est une place absolument centrale. Et en même temps, il n'y a eu aucun débat, ni politique ni scientifique, sur la pertinence de mettre ces chiffres-là en particulier au centre du problème. Alors bien sûr que les enjeux de décès liés à la crise sanitaire sont des problèmes, sont des données importantes. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on n'en a pas débattu et que par ailleurs, et on voit de plus en plus discuter cette question-là. Par ailleurs, la crise sanitaire pose d'autres problèmes à d'autres endroits en termes de décrochage scolaire, en termes de montée de la pauvreté, en termes de violences faites aux femmes. Et donc, cet espace multidimensionnel du problème est complètement, pour l'instant, dénié.
Donc des problèmes peuvent en cacher d'autres, Dominique Méda, et des chiffres peuvent en cacher d'autres.
C'est exactement ce que je voulais dire. Des chiffres peuvent en cacher d'autres. On a eu cet amoncellement de chiffres, et puis moi j'ai cherché très vite, parce que j'ai été très intéressée, comme tout le monde, de voir sur la scène sociale ce qu'on a appelé les travailleurs essentiels, et je me demandais si dans les statistiques, on allait voir que ces personnes étaient plus malades ou plus décédées. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai appelé mes amis statisticiens, et très vite, je me suis aperçue que non, on n'avait pas sur les certificats de décès, on mettait jamais la profession. Et donc, on ne pouvait pas savoir si, par exemple, les caissiers, les métiers du soin allaient plus être touchés par cette maladie que d'autres. J'ai trouvé ça invraisemblable. Alors, je crois que ça va être fait. On va tirer maintenant des échantillons, essayer de rattraper, ce qui n'est pas évident. Mais alors, du coup, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé une enquête faite, en revanche, au Royaume-Uni, qui suivait ça parfaitement. Et donc, ils avaient tiré un échantillon de 2000 personnes décédées du Covid, de la Covid, pardon. Et on avait leur profession. Et évidemment, ça a donné des choses passionnantes, puisque qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait plusieurs métiers, qu'il y avait un taux de surmortalité d'un certain nombre de métiers. Les métiers du care, pas du soin, parce que les soignants
pas
étaient...
Pas du soin médical seulement, exactement. Vous voulez dire de la prise en charge
voilà.
Globale, enfin de
donc
tout
c'était,
ce qui...
C'était les métiers du care non soignants, parce que les soignants étaient protégés et pas les autres, les chauffeurs de bus et de taxi, et les personnels de la vente.
Ce qui est très intéressant, Dominique Méda, dans ce que vous venez de dire, c'est au fond ce réflexe de scientifique que vous avez. Vous avez donc, comme disait Lou Wolf, une sorte d'hypothèse, enfin une question en tout cas, hein, qui surgit, c'est-à-dire il y a des travailleurs essentiels, ils sont exposés, on voudrait savoir si ça se retrouve dans les morts en bout de chaîne, malheureusement, au fond, et s'il y a un effet de risque particulier. Et là, votre réflexe, c'est pas d'aller sur les plateaux et de dire on expose les gens à un risque, enfin c'est ça aussi, j'imagine, hein, vous allez nous le dire, il y a un problème au sens politique, mais votre deuxième réflexe, disons, c'est de dire il me faut des chiffres.
Bien sûr.
Et ce réflexe de scientifique, est-ce que vous pouvez le décrire dans la... Pourquoi est-ce qu'on a besoin, au fond, enfin, voilà, la science, c'est-à-dire au fond d'objectiver cette hypothèse qu'on a et qui fait un problème politique, mais aussi un problème scientifique.
Oui, mais parce qu'on peut pas dire n'importe quoi. Mmh. Vous pouvez pas. Enfin, vous le savez très bien.
Ouais, mais c'est important de le rappeler.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais et puis donc on n'est pas sûr. On va vérifier. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai la chance, en effet, d'avoir les collègues à la DARES. J'avais des collègues à l'INED. L'INED justement a fait une enquête passionnante.
Tous ces acronymes. Pardon. Déplier,
non, tout, c'est vrai. Donc la DARES, c'est la Direction statistique et des études du ministère du Travail. Ouais. Et l'INED, l'Institut national d'études démographiques, a fait une enquête absolument passionnante qui s'appelle Coconel sur la vie confinée et notamment la manière dont les gens ont vécu et travaillé, y compris télétravailler, pendant le Covid. Ça donne des résultats fantastiques. Je vous en donne un. Mmh. Parce que on a dit, les femmes, elles ont été maltraitées pendant cette pandémie, etc. Mais là non plus, on n'avait pas tellement de chiffres. Et là, je vous donne un chiffre extraordinaire sur le télétravail. On sait bien que ce qui était important, c'était de disposer d'une pièce dédiée pour télétravailler. Sinon, on était au milieu de ses enfants, dans la cuisine, dans la chambre, etc. Eh bien, cette enquête de l'INED, elle montre que un quart des femmes cadres disposait d'une pièce dédiée pour le télétravail contre 47% des hommes cadres.
Les hommes ont leur bureau pour le vivre dans l'espace de l'appartement. Les hommes ont un bureau et les femmes ont un coin de table.
Voilà,
en cuisine.
Donc c'est révoltant et ça nous explique pourquoi il y a eu ce phénomène de surcharge monstrueuse des femmes pendant la pandémie, parce que non seulement elles avaient ce surcroît de tâches domestiques et familiales à faire, mais en plus elles n'avaient même pas un petit bout de coin où travailler.
Ce qui est intéressant, encore une fois, et on va voir ce qu'en pense Lou Wolf dans un instant, c'est quand vous dites un chiffre. Je vous donne un chiffre. Et ce un chiffre, au fond, il joue le même rôle. Je vais tenter une comparaison scientifique un peu osée, mais dans les sciences de la nature, on a une hypothèse. Par exemple, Einstein fait une hypothèse sur la relativité dans l'univers. Et il faut attendre 10 ans pour qu'il y ait une expérience qui vienne la vérifier avec un rayon de lumière qui diverge un peu. Oui. Et on trouve que la vitesse de la lumière, etc. Je ne vais pas prétendre rappeler l'expérience en question. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là aussi, au fond, le chiffre, il est quand même objectif. C'est-à-dire, vous ne l'inventez pas. Il y a des enquêteurs qui sont allés. Vous nous direz d'ailleurs comment on a rassemblé ce chiffre, au fond, comment on trouve les données. Et en même temps, pour qu'il prenne sens, il faut qu'il y ait une question.
Mmh, tout à fait. Et aussi, on disait tout à l'heure, un chiffre peut en masquer d'autres, mais il peut y avoir une bataille de chiffres consistant à jeter dans le débat public des chiffres pour en masquer d'autres. Mmh. C'est tout ce que nous ont raconté Conway et Oresque dans Les Marchands de doute, un livre extrêmement important où on nous montre comment des industriels qui voulaient empêcher...
Sur le tabac, essentiellement.
Sur le tabac, aussi, sur l'alcool, sur... bientôt après toutes les affaires autour de Monsanto, des pesticides, etc. C'est-à-dire comment on a embrigadé, y compris des scientifiques, pour produire non pas des faux chiffres, mais des chiffres qui permettaient de détourner l'attention des véritables chiffres. Alors ça, c'est absolument passionnant.
Alors des vrais chiffres, mais qui détournent d'autres chiffres vrais.
Voilà.
Parce que l'hypothèse elle-même est construite pour ce but. N'est pas construite dans un but de savoir, mais dans un but politique, polémique, de diversion finalement.
Tout à fait.
C'est l'hypothèse initiale qui est dangereuse, c'est pas tellement le chiffre ici.
Alors l'idée c'est par exemple de détourner l'attention et de dire que telle boisson, que nous ne citerons pas, tel soda, certes, il a peut-être quelques inconvénients, mais surtout, il faut faire du sport. Mmh. Il faut faire beaucoup de sport, et si on fait beaucoup de sport, et donc d'accord, on dérive l'attention d'accord vers le fait donc que les Français sont un petit peu trop gros, il faudrait qu'ils fassent plus de sport.
Si les gens sont gros, c'est pas parce qu'ils boivent cette boisson-là, voilà, c'est parce qu'ils font pas assez de
sport. Et donc un certain nombre de scientifiques vont être enrôlés, en quelque sorte, pas du tout pour parler de la marque en question, mais pour dire, écoutez, il y a un vrai problème en France, c'est un petit début d'obésité, et donc les Français doivent faire du sport. C'est et donc, on va vendre des instruments de sport, etc.
C'est drôle parce que vous avez dit, il y a un vrai problème. C'est vraiment tout notre sujet. Lou Wolf, est-ce que vous, en tant que statisticien, d'abord avec votre casquette de statisticien, vous pouvez distinguer la bonne et la mauvaise question quand un scientifique arrive, même avec son hypothèse, qui est aussi un peu engagée parfois, et quand un autre arrive, ou une entreprise, ou un demandeur de chiffres, d'une manière générale, arrive avec une demande, est-ce que vous pouvez distinguer s'il y a un biais, si le chiffre est pris dans une question qui vise à construire le problème objectivement ou bien à le déformer? Est-ce qu'il y a des moyens de faire ça?
Je ne sais pas si une question peut être biaisée. En tout cas, pas comme je le comprends moi, mais ce que notre métier, à l'intersection de plusieurs univers, l'univers de l'administration, du politique, du scientifique, est souvent d'essayer de traduire les questions d'un univers à l'autre pour rendre la discussion possible.
Et vous êtes un médiateur, vraiment, parce qu'entre les chiffres et les questions, il y a vous, les administrateurs de l'INSEE, par exemple, Lou Wolf, ou en tout cas ceux qui répondent à ces questions, en fond.
Oui, je pense que c'est, on peut le résumer comme ça. Et donc, il y a, de mon point de vue, pas forcément de mauvaises questions sur le fond. Il y a des questions mal formulées, c'est-à-dire avec des implicites qui ne sont pas clairement exprimés. Et ces implicites posent toujours des problèmes parce que la construction des chiffres suppose de savoir au préalable exactement ce qu'on est en train de rechercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose, notamment dans les enseignements que je donne, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'on construit un dispositif d'observation, de mesure, du réel, etc., qu'en fonction d'une question très spécifique qu'on a envie d'adresser.
Mais alors, donc, vous dites les questions ne sont pas forcément fausses, mais il y en a qui sont mal posées, c'est ça ?
Alors, il y en a qui sont mal posées parce que en fait, derrière la question qui s'annonce facialement, il y en a une autre qui est en fait la vraie question politique de fond, qui n'est pas forcément conscientisée clairement dans l'esprit de la personne qui vous la pose, ou la personne qui vous la pose n'ose pas la poser aussi directement. Mmh. Et du coup, si on n'est pas attentif à cette vraie question profonde, on répond à ce qu'on a perçu comme la question qu'on nous pose et on répond forcément à côté. Parce qu'encore une fois, les dispositifs qu'on construit sont complètement dépendants de la façon dont on a posé la question. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas dire n'importe quoi à propos de... Et en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on se pose une question sur le réel, on essaye de la formuler le plus clairement possible et on essaye de trouver les données qui permettent de confirmer, infirmer. Mmh. Et en fait, c'est une espèce d'aller-retour comme ça avec le réel qui, par tâtonnement, nous amène peut-être à une réponse.
Mais pour reprendre aussi l'exemple de Dominique Méda, donc, par exemple, si une entreprise de tabac vient vous voir en disant « Prouvez-moi que le tabac ne cause pas le cancer, je veux les données sur... » Bon, ça, vous vous dites, peut-être c'est un peu intéressé, mais bon, c'est pertinent. Mais si une entreprise... de tabac vient avec « Prouvez-moi que le sport, les Français ne font pas assez de sport ». Est-ce que vous vous dites qu'il y a un décalage entre, c'est là que vous voyez un décalage entre où ça, c'est plus votre boulot. C'est-à-dire, vous allez donner les chiffres sur le sport, de toute façon.
Alors, c'est de toute façon pas notre travail de répondre à des enjeux privés, en quelque sorte. Privés, pas au sens d'entreprise privée, mais pour défendre une cause privée, que ce soit celle d'un politique, d'une politique, d'une entreprise, etc. La mission du système statistique public en France, c'est de renseigner le débat public. Et donc, on ne peut pas... un des dangers auxquels il faut qu'on résiste, c'est celui de l'instrumentalisation, justement, d'être utilisé... Par contre, nos missions, c'est de répondre aux questions qu'on nous pose. Il faut que ce soit des questions sincères, sur le fond. Et après tout, peut-être qu'un industriel du tabac s'intéresse franchement à la question de l'intérêt du sport dans la société.
Mais... Donc vous ne pouvez pas a priori suspecter les usages, tomber non plus dans le soupçon, qui est un des dangers de la position des problèmes. On va y revenir dans un instant, après un morceau de musique que Dominique Méda n'a sûrement pas choisi par hasard.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent. sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
France Culture.
À présent.
Frédéric Borns.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
À présent, ce soir, qu'est-ce qu'un vrai problème avec Dominique Méda et Lou Wolf, pour voir comment se construisent les vrais problèmes dans notre débat public, mais aussi comment des faux problèmes peuvent venir faire écran, tels ces paroles et paroles que chante Dalida. Dominique Méda, vous n'avez pas choisi cette chanson par hasard. On parlait de la construction des vrais problèmes entre différents registres de discours. Mais comment est-ce que des faux problèmes, des paroles vides, vaines, peuvent venir faire écran? On en est plus sidéré que jamais, il me semble, depuis quelques années, Dominique Méda.
Alors, j'avais envie peut-être de vous répondre, Frédéric Worms, dans deux dimensions. Premièrement, on peut jeter un peu de la poudre aux yeux. C'est ce que raconte, on citait tout à l'heure Les Marchands de doute, mais il y a un livre qui vient de paraître, là, de Foucard, Aurel et Laurence, qui s'appelle Les Gardiens de la Raison, et qui montre comment, y compris des agences ou des organisations destinées à promouvoir la science, l'esprit scientifique, des associations d'amateurs, ont elles-mêmes été entraînées, je dirais, finalement, dans la défense de mauvais produits et ont été embarquées finalement par les lobbies. Et puis, il y a une autre manière...
Les lobbies, donc pour vous, c'est aussi un peu comme on parlait justement du tabac, c'est d'abord des buts politique partisan ou oui, spécifique en tout cas qui instrumentalise la science.
Bien sûr,
c'est une des sources des faux problèmes.
Tout à fait, ce sont toutes ces personnes, tous ces industriels qui ont intérêt à protéger, à continuer à fabriquer leurs produits. Alors en effet, ça a été le tabac, mais bon, il y a toute la question des pesticides, du glyphosate, enfin en ce moment, il y en a vraiment énormément, qui se battent pied à pied pour montrer que non seulement c'est pas si mauvais que ça, ces produits, mais surtout aussi qu'on ne peut pas s'en passer. Par exemple, ce qu'on nous dit, c'est que les agriculteurs, ils ne peuvent pas se passer de ces produits-là. Donc voilà, je trouve ce livre très, très intéressant. Et puis, une autre manière de jeter un peu de la poudre aux yeux, c'est d'inventer de toutes pièces des problèmes. Alors, par exemple, souvenez-vous, ce moment où on a dit que le problème essentiel de la France, c'était la dette. La dette qu'on allait extrêmement lourde, c'est toujours les mêmes images qui sont utilisées, hein. Le sac à dos extrêmement lourd, ça c'est aussi pour les cotisations sociales, enfin tout ça est très très lourd dans le dos. La dette, c'est monstrueux parce qu'on va la léguer à nos petits-enfants qui seront complètement écrasés. Y a aussi autre manière de détourner des vrais problèmes, de dire que bon bah le chômage, c'est pas un vrai problème parce qu'il y a plein d'emplois vacants, hein. Il y a 600 000 emplois vacants, et donc si vraiment les gens voulaient travailler, ils iraient tout simplement choisir ces emplois vacants. Mais donc vous voyez, il y a des tas de façons de détourner l'attention des vrais problèmes, parce que le chômage est un vrai problème.
Mais bien sûr, mais comment est-ce qu'on tranche dans la... Là, il y a quand même une concurrence des problèmes, Dominique Méda, parce que la dette, on comprend que la dette soit un problème, on comprend que ce que vous voulez dire, c'est pas que c'est pas un problème du tout, c'est que ça n'est pas un problème qui devrait écraser les autres, et que le vrai problème, c'est celui qui écrase les autres, au fond.
Oui.
Dont on prétend qu'il devrait écraser les autres.
Oui.
Quand on dit c'est ça le vrai problème, bah, d'un air un
non
peu
Non, mais
énervé,
exactement.
Comme ça.
Si on dit que c'est la dette le vrai problème, ou encore, alors, il y a des chiffres fétiches comme ça, par exemple, cette première place française en matière de dépenses sociales ou en matière de dépenses publiques sur le PIB. Alors là, c'est vraiment le chiffre qu'il faut lâcher dans un débat. Et là, vous écrasez tout le monde. Parce qu'on vous dit, vous comprenez, on est les premiers. Et en plus, alors avec le Covid, c'est facile, mais en plus, on n'est pas du tout efficace. Donc, on a les plus lourdes dépenses de santé. Et en plus, on n'est pas efficace du tout. Donc là, vous plombez complètement le débat avec, comme ça, ces quelques indicateurs.
Alors, c'est intéressant parce que dans votre article, Une nouvelle façon de penser le monde, vous montrez qu'au fond, d'abord, on pourrait dire la Covid a obligé à augmenter la dette. Donc, ça prouve qu'il y a des problèmes plus graves que la dette, puisque finalement, là, on est dans une relance qui va aggraver la dette, d'une part. Et d'autre part, vous montrez que ce chiffre sur la dépense sociale, au fond, devrait plutôt nous amener à en voir comment la compléter, comment la renforcer encore. En fond, le Covid nous oblige à Est-ce que le Covid a imposé enfin les vrais problèmes? On va y revenir avec vous deux, mais Dominique Méda déjà des...
Oui, oui, moi je dirais en effet que...
Il y a un effet de réel.
Mais cette crise sanitaire nous a révélé des tas de choses. Elle nous a révélé les monstrueuses inégalités françaises. Elle a d'ailleurs contribué à aggraver les inégalités entre les différents travailleurs, hein, ceux qui pouvaient télétravailler et puis ceux qui ne pouvaient pas. Les manières dont les personnes vivent dans des logements radicalement différents, dans des configurations familiales et avec des aides ou pas d'aides. Et elle nous a surtout révélé l'état d'impréparation extraordinaire dans lequel on se trouvait, la très grande vulnérabilité de nos sociétés, et ça doit absolument nous faire réfléchir sur la crise, j'allais dire la crise qui vient, l'autre grande crise dans laquelle on est plongé, et là pour moi c'est le véritable problème, c'est le changement, la crise écologique.
La crise écologique. Alors, dans votre article, Dominique Méda, vous employez une expression que je voudrais demander à Lou Wolff ce qu'il en pense, et ça rejoint ce que Dominique Méda vient de dire. Hein. Vous parlez des leçons objectives de la crise, et en même temps, l'article s'intitule « Une nouvelle représentation du monde », une nouvelle façon de penser le monde. Lou Wolff, qu'est-ce que vous en pensez au fond? Est-ce que effectivement, on peut documenter cette objectivité, dire au fond, appelons problème. Ce qui, par exemple, menace la vie humaine, enfin, c'est une définition assez simple. Est-ce que c'est, par exemple, le nombre de morts in fine? Est-ce que c'est l'injustice, mais l'injustice aussi, en tant qu'elle fragilise les vies, hein, elle empêche de vivre, de survivre? Et comment est-ce qu'on va tirer ce que Dominique Méda appelle les leçons objectives de la crise? Est-ce que vous pensez que c'est possible, d'abord, Lou Wolff?
Je pense que effectivement la crise a révélé, continue de révéler beaucoup de choses, et que ça va laisser des traces assez profondes dans la façon dont on va maintenant se formuler les problèmes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que du coup la formulation des problèmes est très contextuelle, et que les problèmes qu'on identifie aujourd'hui sont pas forcément les problèmes qu'on va identifier demain.
C'est pas tellement le monde d'avant et le monde d'après, c'est les problèmes d'avant et les problèmes d'après.
Voilà, et tout ça est une matière très plastique qui évolue en fonction de l'état de la société et de l'état de la formulation des problèmes. C'est là où je pense que les statistiques publiques jouent un rôle, c'est qu'elles sédimentent dans des instruments qui se font et se défont pas si facilement la formulation des problèmes, et donc ça laisse des traces historiques et qui imprègnent profondément la société. Je pense, et là aussi, je crois qu'une des brèches qui a été ouverte, j'espère, enfin à titre personnel, je pense que ce serait vraiment une piste intéressante. Dominique disait le véritable problème aujourd'hui est la crise écologique, et peut-être que au fond le véritable problème, celui qu'on doit construire et qu'on ne sait pas construire aujourd'hui, c'est la jonction des enjeux écologiques et des enjeux sociaux, qui sont des enjeux, des problèmes posés de façon radicalement hétérogène, sans instruments qui nous permettent de les réunir pour les observer, les traiter, les discuter ensemble.
Et alors justement, je voudrais vous poser une question à tous les deux, puisque vous êtes aussi au fond dans les sciences sociales l'un et l'autre. Quand on dit c'est un véritable problème, il y a des chiffres objectifs. Pardon, mais dans ces chiffres objectifs, il y a aussi le chiffre des attentes subjectives des gens, c'est ce que les gens se représentent. Donc vous avez aussi des données, peut-être pas des sondages au fond au sens politique du terme, mais des données non seulement sur le nombre de morts, par exemple, mais sur les attentes des Français par rapport justement aux santé, justice sociale, qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui est le problème premier, prioritaire aussi pour les gens.
Absolument. Alors ça, c'est très bien documenté, notamment sur le travail, et qui amène à relativiser la distinction entre chiffres subjectifs et objectifs.
Oui, ça c'est moi qui
l'a... Notamment sur les risques du travail. Ouais. Beaucoup d'informations qui nous remontent via des enquêtes subjectives où les personnes déclarent leur situation, et on a pu s'apercevoir dans des travaux la situation subjective déclarée par les personnes nous renseigne beaucoup de leur situation objective, et que ce sont des instruments très
surtout
puissants.
Surtout au niveau statistique, quand on a un certain
surtout
nombre.
Surtout au niveau statistique. Et aussi de par la nature de ce que nous sommes, c'est-à-dire que les difficultés subjectives que nous rencontrons deviennent des difficultés objectives très vite, et inversement. Et donc, c'est les outils que nous mobilisons combinent, c'est un continuum d'objectivité et de subjectivité que nous utilisons, que nous faisons parler, en les faisant discuter souvent.
C'est le propre des sciences sociales, Dominique Méda, aussi, c'est d'objectiver les attentes subjectives, c'est un donné tout à fait réel.
tout à fait, et je suis absolument d'accord avec ce que Lou Wolf vient de dire. Et je me souviens qu'à l'époque où j'étais, où je travaillais au ministère du Travail, avec une grande enquête que Lou Wolf connaît très bien, qui s'appelle l'enquête conditions de travail, qui est une enquête dans laquelle les personnes déclarent un certain nombre de choses, eh bien, le MEDEF refusait les conclusions de cette enquête, précisément parce que c'était du déclaratif. Et il disait, c'est pas objectif. Hein. Les gens, ils vont se plaindre beaucoup, alors que finalement, leur situation est pas si mauvaise que ça. Alors ça, c'est absolument intéressant. Et pourtant, cette enquête, je me souviens de la vague 2013, qui donnait une photographie vraiment passionnante des conditions de travail en France, qui montrait une forte dégradation des conditions de travail et qui faisait un focus notamment sur la fonction publique hospitalière, et on voyait parfaitement bien, si on était un peu attentif, ce qui se passait à l'hôpital. C'est un énorme malaise. Des gens qui vous disaient qu'ils étaient obligés de saboter leur travail, qui n'avaient plus la fierté du travail bien fait. Donc, quelqu'un d'un peu attentif aurait pu, dès 2013, vraiment prendre à bras-le-corps le sujet de l'hôpital et du malaise à l'hôpital.
Donc, c'est là qu'il faut recouper. Est-ce qu'on ne retrouve pas l'hypothèse que je vous proposais au début, c'est-à-dire que pour dire c'est un vrai problème, il faut plus d'une preuve, je dirais. C'est-à-dire que si on n'avait que un chiffre, on ne pourrait pas. Si on n'avait que des attentes subjectives, même randomisées, comme on dit, même nombreuses, même statistiques, ça suffirait peut-être pas. Mais quand on recoupe avec ce qu'on sait par ailleurs, avec voilà.
Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça se construit. Et regardez un dispositif absolument extraordinaire, c'est celui du GIEC. Hein, le GIEC a été créé en 1988, le groupement d'experts l'évolution du climat, qui a fini par construire une base de données exceptionnelle, qui construit avec des milliers de scientifiques à travers le monde, qui a fini par forger un véritable consensus, ce qui fait qu'on ne comprend pas très bien comment il peut encore rester des personnes qui sont climato-sceptiques.
Alors on appelle climato-sceptique justement celui qui nie le problème lui-même. Parce que quand on a construit un problème, le climat devient un problème, ça ne veut pas dire qu'on a la solution, vous êtes d'accord l'un et l'autre. Personne ne propose une solution magique, mais si on ne se met pas d'accord sur les problèmes, Lou Wolf, on ne peut même pas discuter. Au fond. Donc c'est vrai que quand un problème est à ce point documenté, ceux qui le refusent, ils contestent la possibilité même du débat, au fond.
Oui, ce qui rend les choses très difficiles, bien sûr.
Vous êtes d'accord sur cette construction possible des vrais problèmes au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire quand on a, comme disait Dominique Méda, sur le climat, suffisamment de recoupements, ça devient incontestable?
Alors, on voit bien que rien n'est incontestable.
Oui, c'est ça.
Et c'est peut-être encore plus aujourd'hui que ça a pu l'être. On voit bien que toutes les énonciations du problème peuvent être rediscutées à tous les niveaux, avec tous les arguments. Et c'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose. Le problème, c'est effectivement, la difficulté, c'est quand ces rediscussions empêchent de considérer les questions et de les traiter. Sur les questions environnementales, ce qui est frappant, c'est... Je sais pas à quel point il existe encore des gens qui vraiment dénie le problème, ou des gens,
a l'air de dire qu'il y en a,
j'en vois en tout cas clairement qui porte une autre énonciation du problème, qui nie le problème lui-même, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des problèmes climatiques, mais les solutions technologiques arrivent qui vont permettre de les résoudre.
C'est ça. Et donc l'enjeu, ceux qui disent on a les solutions, voilà. Ou bien il y a ceux qui disent aussi il y a un problème encore plus grave. Il y a cette surenchère aussi.
Oui, il y a le problème. Mais là, l'enjeu devient du coup
la fin du mois avant la fin du monde. Justement, en construisant justement, peut-être que ça c'est un faux problème aussi. Fin du mois, fin du monde. Enfin, j'en sais rien. Ça me vient.
Je pense que c'est un vrai problème. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure dans la conjonction des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux.
Et parce là, quand on les oppose, vous voulez dire, quand on oppose la fin du mois et la fin du monde.
Ah voilà, c'est justement ça qu'il faut arriver à dépasser. Et on s'est bien rendu compte à ce moment-là. Et c'est un autre épisode, je pense, politique important pour notre pays. C'est ce fameux mouvement des Gilets jaunes. On s'est bien rendu compte à ce moment-là, je pense, que la prise en charge politique de ces enjeux environnementaux devait être faite de façon à intégrer l'ensemble des problématiques sociales de notre société et que ça pourrait pas être fait dans un silo de politique publique sans considérer les autres. Mais je reviens sur les questions environnementales et un autre exemple que je trouve très frappant autour des néonicotinoïdes qui sont maintenant à l'actualité. Une façon de dévier le problème qui a été porté au niveau scientifique, avec des articles publiés dans des revues, etc., et poussé par les industriels, a été justement de déplacer le problème en disant les néonicotinoïdes, en fait, ne tuent pas directement les abeilles. Elles les déboussolent, elles affaiblissent leur système immunitaire. Donc, c'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est l'affaiblissement de leur système immunitaire. Donc, trouvons des solutions pour renforcer le système immunitaire des abeilles et on aura réglé la situation.
Les abeilles doivent faire du sport.
Les abeilles doivent faire du sport. Mais c'est vraiment comme ça que, et c'est à cet endroit-là qu'il y a eu un certain nombre de discussions scientifiques. Alors même si quand même le consensus est quand même assez large scientifique sur la question de la nocivité des néonicotinoïdes, malgré tout, au sein de la sphère scientifique, il existe des contre-argumentations de ce type-là.
Donc on voit bien qu'il y a une guerre des problèmes au fond, et qu'avant de malheureusement trouver des solutions, il faut arriver à poser les problèmes, et que quand il est mal posé, ça peut entraîner des conflits sociaux, on va y revenir, et politiques, on va y revenir avec vous deux après le morceau de musique que vous avez proposé vous-même, Lou Wolf.
C'est ton fou, hein?
Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisu nuo vaizdo.
What is your problem? What is your problem? Abych jis sakė, a tūzint kėl, abych jis
sakė. Kacu lyčiai, kai kacu sėdi žemė, nu kapiš jų kacu.
Hakė, nėtfos atkha, achar.
Bet hakė, hala, hakė, hala, čabal.
Nam ką jūtė, nu vakar ne.
Kudė, nu jūs mes, to parą suplipt.
Jė, bet te tūti, jau te konjo.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, qu'est-ce qu'un vrai problème ? Peut-être la question la plus importante, la plus discutée dans le débat public. Nous en parlons ce soir avec Dominique Méda et Lou Wolf qui vient de nous proposer un morceau de musique. On n'a pas eu le temps, Lou Wolf, je crois, d'aller jusqu'au moment où dans le morceau qu'on vient d'entendre apparaît la question du problème. Et vous allez nous en dire un mot.
Ah si, je crois qu'on l'a entendu.
On l'a entendu, was is der problem.
What is the problem ?
What is the problem ?
Oui, non, c'est une musique donc de Rhône, un producteur de musique électronique qui s'appelle Babel dans l'album Room with a View. Et en fait, j'ai eu l'occasion, juste avant le confinement, d'aller voir le spectacle qui était au Théâtre du Châtelet et avec le Ballet National de Marseille, la compagnie La Horde. Donc un spectacle qui met en scène l'effondrement. Dans un mouvement que j'ai trouvé passionnant, à la fois de colère, de vitalité, de ses danseurs, de sensualité bien sûr, ça m'a beaucoup touché, et ça a évidemment accompagné ensuite toute la période de confinement pour moi, parce que c'était comme une annonce de ce qui allait arriver. Et donc je trouve que j'ai pensé à ce morceau parce que un certain nombre d'artistes, écrivains, musiciens sont en train de réfléchir à ces problèmes, à réfléchir à une énonciation de ces problèmes qui dépasse les espaces rationnels, les scientifiques dont on parle aujourd'hui et qui sont, je pense, importants dans la prise de conscience collective de ces enjeux.
Mais alors justement, Lou Wolf et Dominique Méda, on a l'impression que parfois les faux problèmes surgissent immédiatement pollue un peu les écrans, tous les écrans en, en tuyaux aussi, et que par contre, on s'approcherait un peu des vrais problèmes quand, dans des scènes différentes, sur les scènes de l'art, sur les scènes de la politique, sur les scènes de la science, sur les scènes de l'enseignement, sur les scènes de la vie économique et sociale, tout à coup, il y a des recoupements. Et là, quand on voit les artistes, en effet, se saisir du climat, tout autant que les économistes et les sociologues, comme vous deux, ou bien les entreprises quand même, et les citoyens, on se dit, là quand même, ça devient un peu incontestable. C'est ces recoupements aussi, ouais, contre un envahissement unilatéral, peut-être, du champ, Dominique Méda. Pour vous, un signe d'un problème qui commence à...
J'aime bien, Frédéric, votre idée de scène, parce que je pense en effet qu'une des solutions, c'est d'ouvrir les coulisses. C'est-à-dire de ne pas laisser les experts tout seuls. Je pense à une autre querelle d'experts en 1972 et publiée par les Meadows, le fameux rapport Limits to Growth, donc des limites de la croissance, qui dit en gros, si on continue comme ça, ça sera l'effondrement, attention. Et ce rapport a un immense succès, un succès planétaire, et il y a une prise de conscience très forte qui se fait. Et là surgit un économiste, celui qui il y a 2 ans a eu le prix dit Nobel d'économie, William Nordhaus, et il dit, non mais attends, ce modèle est complètement nul, il ne faut pas le regarder parce qu'il n'intègre pas les prix. Dès que vous intégrez les prix, ça va. Et Nordhaus, c'est aussi celui qui dit que en gros, on perdra X points de PIB et surtout, on pourrait accepter un réchauffement de 3-4 degrés. Donc voilà, comme si...
Et alors, il a enterré le problème au fond.
Alors, il ne l'enterre pas, mais qu'est-ce il dit, oh là là, oui, il y aura un problème, mais pas du tout maintenant, dans très longtemps. Alors là, si on avait une confrontation directe avec des climatologues, des biologistes, des sciences naturelles et un véritable débat ouvert devant le public, je pense qu'il n'aurait pas pu maintenir ça. Mmh. Et donc, voilà, il faut, comme vous le disiez...
Un seul débat un peu clos peut...
Voilà, ouvrir les coulisses, faire se confronter les différentes sciences, donc beaucoup plus de d'interdisciplinarité, et ouvrir aussi les coulisses aux citoyens. Hein, la Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment quelque chose qui a été filmé en permanence, avec des experts qui intervenaient, on pouvait voir vraiment qui disait quoi à qui. Ça, je trouve que ce sont des manières de s'en sortir.
Effectivement, y compris dans, par exemple, le débat qui avait eu lieu sur la bioéthique, il y avait des débats au sens citoyen du terme, mais c'est vrai qu'eux-mêmes ne peuvent pas suffire. Il y a parfois des biais, il faut écouter toutes les voix, justement. Vous avez écrit un article nouveau qui s'appelait « La démocratie des chiffres », justement, c'est-à-dire qu'il faut... Un chiffre n'a de sens que si on le contextualise, mais je dirais même pas seulement une fois, comme vient de le dire Dominique Méda, c'est-à-dire que on voit ses effets, il surgit dans d'un domaine, il va avoir des effets dans d'autres, il faut ce recoupement, il faut une scène démocratique, justement, un espace public, on pourrait dire, des problèmes.
Absolument, et d'ailleurs il est institutionnalisé en France autour du Conseil National de l'Information Statistique, qui est le lieu du débat ouvert à la société civile, très largement.
J'avoue que j'en ai découvert l'existence dans votre article, donc c'est quand même un lieu trop peu connu alors.
C'est un lieu probablement peu connu, mais qui a un rôle très important et qui joue ce rôle, qui donc associe aussi bien les organisations professionnelles, les organes de presse, la recherche et la société civile. Et c'est un lieu permanent de discussion sur les investissements, les chiffrages réalisés par les institutions statistiques, qu'il s'agisse de l'INSEE ou des services statistiques dans les ministères. C'est un lieu vivant. C'est malgré tout un lieu peu connu, comme vous le disiez.
Je le regrette, hein, justement, la question qu'on devrait discuter, c'est comment faire pour que ces espaces qui existent...
Parce que souvent, il est perçu comme un lieu d'experts, ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne doit pas être. Parce que le chiffre, la statistique, a tous les apparats naturels de l'objectivité, de la scientificité, etc. Et du coup, si on ne fait pas un travail d'acculturation des instances qui sont capables de discuter avec nous de la construction de ces chiffres, le danger est que ce lien se dissolve. Et on voit bien, hein, notamment pour les organisations professionnelles syndicales qui participent au CNIS, c'est un investissement important que de dédier du personnel,
du temps,
le temps de la lecture, le temps d'entrer dans les sujets, etc. Et malgré tout, cette scène existe. existe et elle est absolument essentielle à préserver.
Mais alors, donc il y a des espaces qui existent, il y en a même beaucoup finalement dans nos démocraties, en tout cas Dominique Méda, mais comment se fait-il que finalement, plutôt que d'orienter, quand il y a un problème qui surgit, que la presse, au lieu d'orienter vers ces espaces complexes, relationnels, multiples, et de dégager des vrais problèmes aussi pour les politiques et les citoyens, que quand même tout ça soit encore... un peu quand même occulté, même s'il y a eu la Convention citoyenne qui, elle, a occupé un peu les écrans, finalement, sur le climat, justement. Comment est-ce que vous pensez que ces outils-là peuvent permettre de résister à des forces opposées, malgré tout, qui sont ces forces d'immenses faux problèmes qui déferlent sur le monde ?
C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de cette scène, enfin de ces scènes, de médiatisation, à la fois les chaînes d'information en continu, qu'on a beaucoup critiquées, et qui en effet donnent souvent une dimension extraordinaire à un événement. Alors, par exemple, je regardais une chaîne d'information en continu dimanche dernier, et toute l'après-midi, on a eu le canardage au mortier du commissariat de Champigny, qui est revenu absolument en boucle. Alors, bien sûr, c'était un événement très, très important qui était commenté par des personnes qui étaient sur scène. Mais il y a un effet de focalisation et de saturation par les images. Et puis, il y a l'influence...
L'événementialisation. C'est-à-dire un événement même grave, disons, va être chassé par l'événement du lendemain. Et exactement. On ne construit pas, justement, le problème qu'il y a derrière.
Il me semble que, de plus en plus, on a peur de faire intervenir des gens qui risqueraient d'ennuyer, peut-être, le public, d'être trop nuancé. On préfère un bon clash bien saignant, avec des arguments évidemment souvent trop faciles. Et ça, je trouve que on voit ça quand même de plus en plus souvent dans les médias en général, et évidemment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement extrêmement embêtant.
Qu'est-ce que vous proposeriez, Dominique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous enseignez l'un et l'autre, vous intervenez dans le débat public.
Alors, il y a certainement, mais je pense qu'elle est très bien faite, hein, la formation des journalistes, mais il faut voir aussi les contraintes auxquelles les journalistes sont soumis, avec souvent beaucoup de précarisation, une obligation de lutter pour aller chercher l'info la plus saignante, justement. Donc, oui, il y a sans doute des choses à faire. Et Julia Cagé, récemment, a fait des propositions sur les médias pour qu'ils soient financés de manière différente et du coup qu'ils donnent une information peut-être différente.
Lou Wolf, de votre côté, comment est-ce que vous pensez que ces vrais problèmes, c'est-à-dire, encore une fois, qui ne sont pas donnés d'un coup, au contraire, hein, qui prennent du temps pour être construits avec plusieurs acteurs, plusieurs voix, comment est-ce qu'on peut leur construire un espace, sachant que justement, d'après ce que vous dites l'un et l'autre, le vrai problème, c'est justement ce qui n'est pas donné d'un coup, avec un événement, avec un chiffre, avec une donnée. D'ailleurs, les mots données, c'est toujours au pluriel. D'ailleurs, les données commencent à envahir aussi. Voilà, vous êtes un spécialiste des données, mais pour lire les problèmes dans les données. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour que cette construction compliquée soit néanmoins possible, publique, efficace, active?
Alors, j'ai l'impression que la clé est dans la question que vous me posiez, et c'est la question du temps. On a le temps médiatique, le temps politique. C'est beaucoup accéléré, objectivement. Et ce qui est très frappant pour nous qui observons le monde social, c'est que sur beaucoup de questions que nous regardons, le temps, c'est pas tant que ça accéléré. Les mouvements de la société sont extrêmement structurels, lents, sur les grandes questions. Alors bien sûr, il y a des choses qui, de temps en temps, vont vite, mais sur les vrais problèmes, entre guillemets, de fond, tous ceux auxquels on peut penser, les évolutions s'inscrivent tout à fait dans un temps qui nous permettrait de les appréhender, de les discuter, de discuter des outils qui nous permettent d'en discuter, donc de faire tout ce travail de dénonciation des problèmes. Et donc moi, là, j'ai pas de réponse, et peut-être que Dominique en aura plus, ou peut-être que vous, Frédéric Vormt, mais je me demande parfois pourquoi le temps s'est accéléré autant. Qu'est-ce qui fait quelle est l'explication de cette accélération? Parce qu'elle est les sous-jacents de ce mouvement d'accélération ne sont pas clairs, je pense.
Il est possible, Lou Wolf, puisque vous me sollicitez, que la question de la démocratie soit au cœur. C'est-à-dire que finalement, la démocratie est à la fois l'outil, mais en même temps un outil dangereux en un certain sens, puisque il faut répondre dans l'instant à des enquêtes, des données, mais qui sont sur des opinions volatiles. Il faut séduire, il faut être élu, il y a des objectifs de court terme. Et donc la démocratie est à la fois l'outil et peut-être en un sens la source du problème, peut-être, hein, je le dis bien. Et d'ailleurs, peut-être que la dernière question que j'avais envie de vous poser à tous les deux, c'est au fond la question de la politique, parce que vous avez commencé en disant faut assumer le fait que les problèmes, en tout cas les problèmes humains, sociaux, ils viennent d'une hypothèse. Est-ce que cette hypothèse ne vient pas aussi d'une prise de position, d'une indignation? Est-ce que le problème, justement, il ne faut pas assumer pour qu'il bouge aussi, qu'il soit dans l'espace politique, qu'il vienne d'une sorte de prise de position qui ne va pas disqualifier la science, mais qui va quand même dire, voilà, l'injustice est là, et puis après, discutons-en, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment politique aussi à la source du débat? Sinon, on risque de retomber dans ce risque.
Oui, vous avez raison. Mais donc, on tombe souvent sur des problèmes de valeurs. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui, le vrai problème, c'est bien sûr le changement climatique, mais aussi les immenses inégalités qui fracturent nos sociétés. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas du même avis que moi me dira que non, c'est pas du tout ça le vrai problème. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'en effet il y a de la politique là-dedans. Il faut certainement mettre de la politique là-dedans.
Vous l'assumez peut-être.
Mais tout à fait. Mais il faut se battre ensuite avec des vrais chiffres. Donc vous nous demandiez des solutions. Moi je pense qu'il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts quand les gens viennent parler. Je pense qu'il faut mettre plus d'universitaires dans les débats, plus de citoyens, là encore, comme ça s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, parce que on dit souvent que les problèmes sont techniques. Par exemple, je regardais là le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bon, waouh! C'est dur, hein.
C'est-à-dire. Faut maîtriser des outils, quand même.
Faut maîtriser les outils. Il y a un jargon absolument invraisemblable. Voilà. Je pense qu'il faudrait absolument mettre le plus de citoyens possible, de les confronter à ces questions-là avec des médiateurs. Ça perd peut-être un peu de temps, ça coûterait peut-être un peu d'argent, c'est pas grave.
Qu'est-ce que vous en pensez, Lou Wolf, pour terminer aussi? Et comment d'ailleurs votre métier, votre expérience de statisticien permettrait aussi, on le dit souvent parfois, de dégager des panels représentatifs, justement. Parce que mettre des citoyens, c'est pas mettre A, B, C. Peut-être le hasard peut servir. Hein, beaucoup de gens défendent justement le tirage au sort. Mais justement, comment est-ce qu'on fait émerger la diversité des voix?
Alors, je pense que c'est ce que vous évoquiez vous-même, c'est le croisement d'approches différentes qui fait émerger la question, le problème. C'est des conventions, c'est des matériaux plus qualitatifs liés à du travail approfondi mené par des chercheurs, des journalistes, des citoyens. C'est la construction de chiffres qui peut passer par des échantillons aléatoires, comme on le fait beaucoup dans la statistique publique, mais pas seulement. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Le vrai enjeu, c'est que toutes les constructions de ces preuves-là puissent, à toutes leurs étapes, être discutées dans des espaces qui permettent la discussion et qui permettent de faire le tri entre les informations jugées valables et celles qui sont jugées moins valables, et par des instances qui ne sont pas que des instances d'experts, effectivement, des instances ouvertes sur la société et qui, du coup, permettent l'appropriation de ces résultats.
Merci infiniment, parce qu'on termine sur l'idée d'un cadre pour discuter des vrais problèmes. On a dit très souvent, c'est ça le vrai enjeu, c'est ça le vrai problème. Défendons ces cadres, permettons cette parole publique. On voit bien que c'est la condition pour résoudre les problèmes des êtres humains aujourd'hui. Je dois maintenant vous remercier l'un et l'autre, Dominique Méda, Lou Wolf, infiniment d'avoir participé à cette discussion ici.
Merci beaucoup, cher Frédéric.
Merci. À présent, on a essayé de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un vrai problème ?» Les vrais problèmes du présent avec Dominique Méda et Lou Wolf, avec et grâce aussi à Benjamin Vignal, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vente. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours à présent. À bientôt.